Et l'indicatif.
Et l'indicatif.
Merci de nous rappeler. Ciao.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste.
Alors, c'est l'émission mensuelle des chroniques syndicales.
Avec la philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Voilà, on a fait un petit melting pot, hein, comme ouais. Ça, on se voit de temps en temps. C'est une bonne occasion pour se voir, d'ailleurs.
Ouais. Melting pot, c'est qu'on est des potes mélangés.
Voilà, c'est ça. Alors, on va faire un truc que j'adore, on va parler sport. Parce que moi, le sport, je suis accro. Peut-être pas du bon côté, mais je suis accro.
Ouais. Et ton sport préféré, c'est frites moules.
Moules frites.
Moules frites.
Et donc, pour ce faire, bah, on a invité, il a presque un rond de serviette parce qu'il est toujours venu, Mac Perelman. Alors, pour son livre.
Donc, un livre de 2022. Le titre un peu provocateur, mais on y reviendra sans doute. 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu.
C'est vrai. Et ben voilà, on a fini, on peut s'en aller. Voilà. Donc, bah, allez, Marc, t'es qui? T'es quoi? Tu fais quoi?
Je fais plus rien là maintenant.
Ah, enfin.
Alors, je suis retraité depuis ce 1er septembre, puisque j'ai été rayé des cadres, comme on dit, oui. À l'université. Voilà, donc je suis à la retraite depuis le 1er septembre. Et ce qui ne m'empêche pas d'être, sinon à la retraite, évidemment, pas du tout en retrait des événements politiques que j'essaie de suivre attentivement, et en particulier, évidemment, les Jeux Olympiques de Paris 2024, que je suis, évidemment, depuis la décision qui a été prise à Lima en 2017, il y a déjà presque 6 ans, de donner les Jeux Olympiques à la ville de Paris, mais que je suivais déjà auparavant depuis pas mal d'années, puisque voilà, je m'intéresse beaucoup à la question du sport, des événements sportifs, des institutions sportives.
Des structures.
La puissance surtout, disons, de la vision. Hein, on reviendra là. là-dessus sans doute, mais disons de la vision sportive du monde, si je peux dire.
Vision totalitaire du monde.
Oui, vision totalitaire, mais vision quand même, avant tout. Vision, c'est-à-dire vraiment un projet, quoi, un vrai projet politique. Ce qu'en fait Coubertin, hein, le père fondateur des Jeux Olympiques modernes, appelait l'olympisation du monde. Et je pense que c'est, ce néologisme-là va très bien à la période actuelle, où alors on assiste, c'est vrai, à une olympisation des villes, hein, voire des pays, et puis une sportivisation.
Hein, une footballisation aussi, quelquefois.
Voilà, footballisation, on l'a vu avec le Qatar. Hein. Bon. Là, je pense qu'il y a un vrai projet politique voilà, qui est mené par les édiles politiques, hein, de tous bords, de ce point de vue-là, de la droite à la gauche, ils sont à peu près tous d'accord. Hein. Et avec une puissance, disons, opaque, qui est la gouvernance même du sport, hein, qui est le CIO, qui est vraiment une puissance dont on mesure mal, d'ailleurs, hein, moi le premier, on mesure mal la réalité matérielle, financière, parce que cette structure est totalement opaque. Il est absolument impossible de savoir exactement de quoi dispose en termes de fonds le CIO, mais il est un fait que le CIO... Et en particulier son président actuel, le fameux Thomas Bach, bon, est comme véritablement un chef d'État, avec un budget d'État, et a une puissance sur les États-nations.
C'est ça, oui, parce qu'il est quand même au-dessus des États.
Voilà, une puissance sur les États-nations tout à fait impressionnante. On l'a vu, par exemple, au moment des Jeux Olympiques de Tokyo, qui devaient avoir lieu en 2020 et qui ont eu lieu en 2021.
Oui, mais ils ont dit que ça resterait les 2020.
Exactement. Donc voilà, bon, des choses assez surréalistes, si on peut dire ça comme ça, où on a vu le CIO imposer les Jeux Olympiques, alors que le gouvernement japonais était contre, la population était contre, c'était un vrai désastre. Hein, mais... Pour le CIO, non, les Jeux pouvaient avoir lieu, ils ont eu lieu sous cloche, hein, vous vous souvenez des trucs absolument ahurissants, où on voyait des bulles, des spectacles sportifs, des compétitions sans spectateurs, enfin un truc absolument incroyable. Mmh. Les sportifs ont raconté comment ça se passait, ils sortaient de l'aéroport, ils rentraient dans des couloirs, ils se faisaient triturer le nerf, pour des trucs absolument incroyables, mais... Pour le CIO, c'est ça qu'il faut croire, qu'il faut bien comprendre. Pour le CIO, c'est presque bien ça. C'est, ouais. c'est une bonne organisation.
C'est une vue du monde quand même.
Ouais, c'est un peu c'est le pouce DI, quoi. Ouais. Le pouce DI sportif.
Ouais, ouais. Ce sont quand même des démocrates, hein.
Oui, oui. Ouais.
Ce sont quand même des démocrates.
Le pape est élu, c'est bien connu.
Voilà, ce sont quand même des démocrates, mais oui, c'est une structure tout à fait étonnante, qui se fait dont les membres, hein, 110, 120, ça bouge un petit peu, beaucoup plus d'hommes que de femmes, hein, trois quarts d'hommes, voilà, un quart de femmes, pas de transgenre encore, mais beaucoup d'anciens aristocrates, et de plus en plus, avant c'était beaucoup de sportifs, maintenant c'est de plus en plus hommes d'affaires, financiers, anciens sportifs reconvertis
dans les affaires,
comme Jean-Claude Killy, bon, etc. Voilà. Mais une structure voilà, où se coopte, hein, c'est pas une démocratie, se coopte, il y en a un qui disparaît, on le remplace par vote,
en interne.
Voilà. Comme l'Académie française. Ouais.
Juste une chose, c'est né comme ça, ou c'est... Ça a évolué dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'autre, là.
Coubertin,
mais je ne voulais pas dire son nom. Mais c'était déjà ça qui était vu et ça se pratiquait comme ça, ou c'est. Ça a évolué dans le temps?
Non, ça a toujours été comme ça. D'accord. Avec un nombre, disons, de membres du CIO beaucoup plus faible. Hein. Mmh. C'était une quinzaine tout au début. Hein. Voilà, mais avec un président qui n'a pas été d'ailleurs Coubertin tout de suite. Hein. C'était un Grec, le premier président du CIO.
Oh bah.
Ouais. Et puis ensuite, oui, ça a évolué et c'est devenu la structure.
Oui, mais l'idée était déjà là, de toute façon.
L'idée était là. Et même, moi, j'ai pu relire, parce que c'est un élément très important du CIO, hein, qui définit. Disons, les caractéristiques globales, disons, de ce qu'on appelle le mouvement olympique. Hein, c'est très important. Hein, le mouvement olympique, c'est vraiment l'ensemble du CIO, des fédérations, des sportifs, etc., etc. Ce qu'on appelle le mouvement olympique, avec sa gouvernance qu'est le CIO. Bon, est défini par ce qu'on appelle la charte olympique. Très important, hein, la charte olympique, qui est vraiment la Bible, si je peux dire, du mouvement olympique. Et ça, bon, alors elle aussi a évolué, hein, plus de 100 ans. C'était au début.
Il y avait quelques pages et maintenant il y en a une centaine, c'est ça?
Exactement. Ouais. À quelques pages au départ et aujourd'hui une centaine, mais avec des règles, voilà, qui ont évolué, hein, sur l'amateurisme, sur la présence des femmes, etc., etc., qui va encore évoluer, qui évolue d'ailleurs 2 à 3 fois par an, hein. Modifient des petites choses ici. Ils vont, je pense, intégrer progressivement de nouvelles choses, hein, en particulier tout ce qui a trait au dopage. Hein. Moi, les deux grandes choses qui vont arriver, c'est le dopage. Et puis, c'est-à-dire qu'ils vont faire sauter le tabou du dopage. Et puis, je pense, le sport, ce qu'on appelle l'e-sport, le sport vidéo, etc., qui est, je pense, le grand
vidéo,
truc.
Le sport vidéo, tu peux m'expliquer.
Je pense que c'est le grand truc qui va venir.
J'arrive pas à voir ce que c'est, le sport vidéo.
Bah, c'est remplacer, en gros, les athlètes physiques par la vidéo, par du numérique, par des joutes à travers des écrans.
C'est le grand, on créera nos propres personnages.
Voilà.
Ça n'aura plus rien de physique directement.
Non, plus directement physique, mais qui restera quand même en accord avec la charte. Parce que la charte olympique parle à la fois de compétition physique, mais pas uniquement. Hein. Ça peut être aussi... on peut être physiquement, disons, assis face à un écran, mais la charte olympique peut tout à fait intégrer ce type de présence, d'activité physique.
Voilà, d'autant que ça existe déjà un tout petit peu, puis que c'est un marché tout à fait considérable. Quoi.
Considérable. Le CEO, qui sont des gens pas idiots, ont compris que les sports traditionnels, je pense aussi ça, hein, les sports traditionnels, l'athlétisme, ça demande un effort absolument énorme, un investissement, du temps, etc. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est plus trop dans ces créneaux-là. Par contre, tout ce qui est informatique, écran, vidéo, etc., là, il y a tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'il y avait des millions de jeunes qui sont dans ces structures-là, qui font des compétitions en réseau. Il commence à y avoir des fédérations, etc. Et donc, le CIO commence à s'orienter progressivement vers le e-sport et a des contacts, évidemment, avec les fédérations qui se mettent en œuvre, pour pouvoir évidemment les capter. Hein.
Oui, et puis ça doit avoir un rapport financier intéressant, parce qu'au niveau de l'investissement, ça va être beaucoup plus faible.
Énorme. L'investissement, ils se rendent compte, le CEO se rend compte la mise en œuvre d'une compétition, ce qu'on appelle une Olympiade, hein, c'est-à-dire sur 4 ans, des compétitions olympiques, c'est sur 7 ans maintenant, hein, puisque 2017-2024, ça demande des mises en œuvre, des absolument gigantesque, un suivi des constructions, des réseaux, qui est absolument énorme. Et alors que l'informatique, la vidéo, c'est beaucoup plus simple, hein, à contrôler, à suivre. C'est beaucoup moins cher en termes d'investissement.
Moins cher, mais c'est pas le CIO qui paye quand c'est cher. C'est les villes, c'est les États, c'est les citoyens surtout.
Oui, en partie, oui, c'est bien sûr. Et là, c'est surtout pour le CIO, ça va être un gain par rapport à ceux qui payent, hein, qui permettent, disons, au CIO de véritablement exister. Ben, c'est les sponsors. Les grands sponsors, Visa, Coca-Cola, Alibaba, etc., qui payent des sommes hallucinantes, hein, pour pouvoir être sponsor officiel. Il y en a 14. Hein, les sponsors officiels du CIO, ceux-là payent des sommes monstrueuses. Mais vous êtes peut-être rendu compte que là-dedans, il n'y a pas les GAFA encore. Hein, il n'y a pas Amazon, il n'y a pas, etc. Et quand eux vont arriver...
Bah avec le numérique, ça va être intéressant.
Ça va être le jackpot.
Des spécialistes.
Voilà. Donc je pense que là, il y a une tendance du CIO, et Thomas Bach, moi je lis régulièrement, hein, ses newsletters, etc., on voit qu'il s'intéresse à la vidéo.
Sachant que ce Thomas Machin là, c'est aussi un homme d'affaires, quoi. C'est pas un sportif.
Si, c'est un sportif. C'était sportif. Non, c'est un test sportif. Il était aux compétitions dans les années 80 en escrime. C'est un type qui connaît le milieu. En l'occurrence, lui, il le connaît. Ouais, il le connaît.
Ouais. Ouais, donc il n'est pas qu'avocat, quoi.
Non.
Mmh. que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier.
Radio Libertaire, 89.4.
C'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Sur la radio de la Fédération anarchiste.
Voilà, j'ai oublié. Et on reçoit donc Marc Perelman autour des Jeux Olympiques.
Voilà, donc un ouvrage de 2022, tout à fait d'actualité, même si des choses ont un petit peu changé, dont le titre est « 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu ». Mais je crains quand même qu'ils aient lieu.
On n'en sait rien.
On n'en sait rien.
On n'en sait vraiment rien. Les Jeux Olympiques de Tokyo étaient prévus pour 2020, ils ont lieu en 2021. Bon, voilà, on verra. Hein. Surtout que la situation, enfin, vous savez comme moi, elle bouge quand même pas mal à quelques heures de Paris, en Ukraine, hein, exactement. Elles ont à voir, évidemment, avec les Jeux Olympiques, hein, puisque vous avez peut-être entendu les déclarations du gouvernement ukrainien, qui a dit que si des athlètes russes et biélorusses entrer quand même dans la compétition, y compris sous bannière olympique, neutre, hein, oui, comme dit Thomas Bach, eh bien, ils boycotteraient les Jeux. Et dans ce cas-là, ils ne seraient pas que seuls, d'ailleurs, à les boycotter. Il y aurait sûrement les Polonais, pays du Nord, les Polonais, etc., etc. Donc, voilà, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, quelle va être la position du CIO, est-ce que... Bon, voilà. Mais, en tous les cas, il y a cette menace-là, qui est une menace réelle, hein, qui est une menace réelle, et qui reprendrait, en fait, ces boycotts qui ont eu lieu, en gros, des années 56 aux années 88, hein, où il y a eu toute une série de boycotts, pour des raisons parfois très différentes et divergentes, mais pendant 30 ans, un boycott important autour de l'apartheid, des guerres en Europe, des guerres au Moyen-Orient aussi, qui ont fait que des pays boycottaient d'autres pays. Hein, le bloc soviétique à l'époque boycottait les Américains ont boycotté les Jeux de Moscou en 80, etc., jusqu'en 88. Hein,
oui, sachant que le bloc de l'Est, à un moment, faisait des spartakiades, c'est-à-dire des contre-Jeux olympiques. Alors, pas comme ceux de Barcelone en 1936, qui avait une autre allure, ouais, mais simplement pour promouvoir le sport soviétique, quoi.
Le gros muscle rouge.
Muscle rouge.
Et donc, oui, tout à fait. Ils ont essayé, disons, hein, de créer ces Spartakiades qui marchaient bien dans le cadre même, disons, du glacis, hein, soviétique. Mais finalement, ils ont décidé, dans le cadre de la coexistence pacifique, d'intégrer le mouvement olympique, hein, en 52, si je ne me trompe pas. L'Union soviétique a de fait participé au grand mouvement de l'olympisme bourgeois, comme on disait, comme ils disaient à l'époque, en intégrant leurs équipes, tout simplement, et avec l'ensemble des pays. La Chine un peu plus tard. Mais voilà, ça fait partie, disons, c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que le nombre de pays, oui, qui participent, disons, au mouvement olympique est plus important que le nombre de pays de l'ONU. Hein, parce qu'il y a des pays qui n'existent pas, qui font quand même partie du mouvement olympique. Hein, la Palestine, le Vatican, les îles Marshall, enfin bon, etc., etc. Des choses assez étonnantes. Mais voilà, c'est un peu la spécificité. Et c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que ça montre vraiment qu'il y a là une structure absolument pérenne déjà, hein, qui a plus de 100 ans, et qui est une espèce de projet politique, hein, avec une vision politique du monde sur la base, hein, de la compétition, alors pour le coup pas économique, mais sur le coup de la base, de la compétition entre les individus. Hein, voilà, c'est ça que je trouve tout à fait intéressant.
Tu dis que c'est pas économique. Mais c'est quand même un reflet du pays à chaque fois. Quand on voit les États-Unis qui essayent de tout rafler, par exemple, entre les États-Unis et le RSS, ça a toujours été le conflit pour en rafler un maximum. Oui, donc c'est pour donner quand même de l'image de la puissance du pays.
Tout à fait. Alors c'est étonnant parce que c'est économiquement pas viable, hein, puisqu'à chaque fois, les villes ont des martingales financières extrêmement importante. Néanmoins, les pays dits développés se bagarrent pour obtenir les jeux, quoi.
Tout à fait.
Il y a une espèce de contradiction, là.
Alors, c'est effectivement une bagarre entre des villes, d'ailleurs. Hein. Au départ, c'est des villes, hein. Ce ne sont pas les États. Ce sont des villes qui sont évidemment soutenues par les États, mais ce sont des villes au départ.
Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on ne parle que des États.
Exactement. Ouais. Ce sont des villes et qui se mettent en lice, hein, pour pouvoir avoir la décision finale du CIO. Et donc, par exemple, pour les Jeux Olympiques de Paris, il y avait plusieurs villes, hein, qui étaient présentes et qui se sont progressivement... Alors, c'est souvent comme ça, elles se présentent, puis elles se retirent, pour différentes raisons. Pour Paris, ça a été beaucoup de villes qui ont décidé par référendum, souvent, ou par des pétitions qui ont poussé...
C'est la population qui refusait, quoi.
Ouais, la population qui refusait.
C'est pas mal, quand même, fait d'avoir fait ce genre de choses.
Par exemple, Hambourg, Budapest, etc., il y a eu des pétitions, alors, soit par pression populaire, soit par vote, hein, du conseil municipal, qui fait qu'ils ont reculé. Mais ils se présentaient quand même. Voilà. Bon, à la fin des fins, pour Paris, il ne restait plus que deux villes, en l'occurrence Los Angeles et Paris. Je pense que le CIO a fait un chèque à Los Angeles en leur disant « on vous file 2028 et vous écrasez ».
Mais Los Angeles, il n'y a pas déjà eu Los Angeles ?
Il y a longtemps.
Il y a longtemps.
Mais sur la décision de Lima, les dés avaient l'air déjà pipés.
C'était réglé, quoi. Hein. Donc, Madame Hidalgo a joué une comédie absolument incroyable. On voit encore les images où elle a les yeux embués de larmes.
Ça, c'est la lacrymo, peut-être.
Lacrymo, ouais. Donc, elle était vraiment dans un état d'émotion absolument inouï, alors que tout était réglé. Je veux dire, c'était... quand il a sorti le papier de l'enveloppe Paris, c'était
déjà...
Tout le monde le savait.
Il y avait
une délégation qui a coûté... 1,5 million, hein, une délégation française, oui. 300 personnes dans un avion, alors le tout Paris olympique et politique.
Le maire de Saint-Denis.
Mahouezek, tout le monde était là pour attendre avec anxiété la décision que tout le monde connaissait. Donc c'était assez pitoyable. Mais bon, ça reflète bien l'aspect totalement risible parfois, hein, des décisions qui sont toujours prises.
Et tu parles quand même c'est pratiquement mystique. C'est une croyance, il y a quelque chose autour des Jeux Olympiques, puisque tout le monde y va comme ça, mais c'est pas forcément des calculs financiers. Il faut y aller, quoi, c'est quelque chose d'énorme.
On voit bien dans ton bouquin, effectivement, que aussi bien les gens de gauche, y compris les Verts, quand on sait que les Jeux Olympiques, ça n'a rien d'écolo, quoi.
Ah bon ?
Et que dans le syndicalisme, même cégétiste, on est pour.
Complètement.
Ouais. Tout le monde est pour, quoi. C'est quand même un peu inquiétant.
C'est une croyance, c'est quoi ?
Le fait est que ça se veut, disons, une communauté, hein, qui rassemble tous les individus, hein, sur la simple base de la compétition, libre.
D'ailleurs, rassemble pour se battre, quoi.
On se rassemble, pour qu'il y ait un vainqueur, beaucoup de vaincus. Ce qui est d'ailleurs le paradoxe du sport, hein, c'est-à-dire qu'on élimine l'autre. On l'empêche en fait de faire du sport. C'est un peu le paradoxe du sport, mais qui est intéressant en soi. Mais le fait est que voilà, il y a une adhésion quand même assez importante. Hein. Peut-être moins par les temps qui courent, hein, j'y reviendrai, mais il y a une adhésion quand même assez importante, sous la forme, c'est vrai, de ce que d'ailleurs voulait Coubertin. Pour lui, l'Olympie, c'est la religion moderne.
Hein, oui, c'est
il
ça.
Il le dit, hein, religion au sens voilà, de relier les individus à travers, une espèce de fantasme d'un corps qui est le corps mâle, pour lui à l'époque, blanc...
et jeune.
Arien, plutôt, face, disons, au corps... ou au non-corps féminin, lui était contre la présence des femmes, et où la présence des peuples inférieurs, ne s'est fait que l'intégration ne s'est fait que très lentement. Voilà. Donc c'est une vraie vision politique, disons, une vision politique de ce que peut être ce qu'il appelle d'ailleurs une philosophie de la vie. Hein. Il pose vraiment la question de l'olympisme, du sport comme une philosophie de vie, de l'effort, avec la ribambelle, disons, de ce qu'il appelle les valeurs, hein, les valeurs de l'olympisme.
Mais le fait est que c'est très religieux, parce que même sur la mise en scène,
tout à fait,
ces espèces de défilés derrière des flammes ou des choses dans ce genre-là, il y a un côté...
Tout à fait, que les nazis, d'ailleurs, nazis ont tout à fait...
C'est religieux et militariste, quoi.
Oui, militariste, tout à fait, hein, puisque... Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que dans la charte olympique, il est bien précisé que c'est une compétition entre athlètes et non pas entre pays. Hein. Et pourtant, d'emblée, c'est entre pays.
Bah, le défilé...
Le défilé, c'est...
Qui pourrait être par sport, mais il est...
Par pays.
Il aurait pu être par sport. Hein,
exactement. Il est par pays. Ce qui est contradictoire avec la charte. De la même façon que le classement des médailles, hein, ce que vous disiez, c'est vrai, c'est totalement officieux. Alors qu'officiellement, il n'y a pas de classement. Hein. Il y a le vainqueur, le héros sportif, celui qui a gagné. Mais il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation. Et là, il y a quelque chose d'assez contradictoire, mais qui a été emporté par le mouvement général, disons, nationaliste, hein, évidemment. Chauvin, qui fait que les pays forts, hein, européens, et puis à une certaine époque aussi en Union soviétique, ont mis en avant évidemment la puissance de leur pays à travers la puissance du muscle de leurs athlètes.
Hein. Mais Coubertin aimait bien ça, puisque 36 pour lui en Allemagne...
36 c'est Berlin.
Ça a été quelque chose d'énorme pour lui, puisqu'il a quand même dit que c'était la représentation idéale des Jeux Olympiques.
Tout à fait, il critiquait les journalistes qui disaient que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe, lui dit non, des Jeux défigurés, pas du tout. C'est exactement ce que je voulais, le peuple allemand était là, avec ses représentants, et ça correspondait parfaitement à ce qu'il souhaitait. Ce qui a d'ailleurs, on était un certain nombre à penser, ce qui a d'ailleurs montré une forme, disons, de concordance, sinon de fusion, hein, entre l'olympisme et le nazisme. Hein. Le CIO, les membres du CIO étaient très contents de l'organisation parfaite des Jeux Olympiques de Berlin. Et donc il y a eu là comme une espèce de fusion, parce qu'effectivement, les nazis sont de formidables organisateurs, et il n'y a pas eu une...
Oui, et puis le rapport à l'homme physique... Ouais. Pour les nazis, ça correspondait bien.
Tout à fait. Y compris avec les Noirs. Parce que contrairement à la légende, Hitler n'a jamais refusé de saluer Jesse Owens, hein, au contraire.
Jesse Owens, c'est ce noir qui gagne le 100 mètres.
Le 100 mètres, le 400, et puis le 100 longueur. Voilà,
mais c'est quand même, le physique, il est particulier quand même.
Voilà, pour les nazis, Hitler considérait Jesse Owens comme, comment il disait, l'auxiliaire noir des Américains, quoi. Donc, l'auxiliaire africain des Américains. Mais bon, à part ça, en termes de représentation corporelle...
Voilà, c'est ça, le corps, c'est sculpté,
c'était grand, la compétition, c'était celui qui était capable de battre, y compris un Allemand, hein, puisqu'il avait battu un Allemand en son longueur. Donc, Hitler reconnaissait la performance, justement, et la capacité physique de Jesse Owens. Hein. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, Jesse Owens dit non, Hitler m'a fait même un petit clin d'œil, pas du tout de, de, d'opposition et comme ça. Donc voilà, il y a une grande légende autour de ça. Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques de 36 ont été une formidable organisation que les Occidentaux n'ont pas compris. Moi, je pense, enfin pas que moi, mais je pense que 36, c'est la préparation à la guerre. Ouais. Là, les Allemands, les nazis ont montré leur
capacité. Le défilé, il est très clair.
Voilà, ils étaient les premiers au classement du nombre de médailles. Et trois ans après, c'était la...
Ils sont les premiers au char d'assaut.
Voilà, c'était les premiers à envahir les Sudètes, la Pologne. Et ils avaient envahi d'ailleurs, en 36, entre les Jeux de Garmisch-Partenkirchen, les Jeux d'hiver de mars 36 et en mars 36, ils envahissent la Rhénanie qui est démilitarisée. Les Occidentaux ne disent rien. Donc voilà. À chaque fois, les Jeux Olympiques sont un moment propice, hein, c'est ça aussi que j'ai un peu noté dans le livre, un moment propice pour que les puissances militaires commencent à... Voilà, à oui, ça on l'a vu avec Poutine, là, par exemple.
On peut peut-être revenir juste sur une chose par rapport à 36, parce que j'ai entendu dire que la flamme olympique partait de Grèce bientôt, donc d'Athènes, allait arriver à Marseille, et que cette flamme olympique, elle n'a pas toujours existé, et que ce sont les nazis qui ont mis à l'honneur, ce moment flamboyant.
Tout à fait, ouais. C'est Karl Diem qui décide que, voilà, dans une espèce de tradition fantasmatique, la flamme d'où serait l'origine même des Jeux Olympiques antiques doit rejaillir là et être transportée à travers la planète, d'ailleurs. Parfois, on a fait circuler la flamme, y compris dans l'espace, pour les Jeux, je sais plus quel jeu, mais elle a circulé dans l'espace, elle est redescendue, elle fait tout un parcours absolument incroyable. Alors, en 36, ça a été un parcours à travers l'Europe, où là, la flamme montrait, d'une certaine façon, ce que les limites, disons, de ce que pouvaient envahir peut-être les nazis.
C'était du repérage lumineux, quoi.
Repérage des sites à occuper. Et donc, voilà, et cette flamme, bon, pour laquelle tout le monde s'émerveille, eh bien, j'allais dire, reprend de la vigueur. Et à chaque Jeux Olympiques, on recommence le rituel. Donc, elle est portée de ville en ville, etc. Et doit traverser les villes françaises qui payent quand même 180 000 euros pour faire traverser.
Il y a des villes qui ont refusé. Ouais, tout à fait.
Oui, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant, on cautionne ce qui a été quand même installé par les nazis, quoi.
Complètement, ouais.
Ça reste et ça pose pas de soucis.
Non, c'est...
Que ce qu'on est Coubertin, ça pose pas de soucis non plus, donc il n'y a pas de raison que ça pose des soucis.
Ouais,
que...
mais 8 tailles, un short, on verra. Non, après. Ouais, ouais. Ça,
c'est bonne chose. Hein. C'est un flottant. Ouais.
Non, c'est... oui, de ce point de vue-là, c'est très, très remarquable, disons, comment l'organisation du départ, disons, des Jeux Olympiques, sa construction voilà, matériel, mythologique, a perduré et se maintient encore aujourd'hui avec les moyens modernes, parce qu'ils ne sont pas restés...
Oui, et puis ça a enflé en plus.
Pardon ?
Ça a enflé, ça s'est grossi.
C'est tout à fait.
Parce que là, tu nous disais qu'au début, au début, il était peut-être une dizaine, une quinzaine, ils sont 110, 120, donc ça veut dire que tout le reste a gonflé avec.
Complètement. Avec, encore une fois, une capacité du CIO à avoir vraiment la main sur les fédérations, de toutes les grandes compétitions, par exemple du football, de natation, d'athlétisme, etc. C'est le CIO qui a ça. Donc on ne fait rien sans le CIO. Donc la puissance du CIO est absolument gigantesque. Et alors c'est le CIO, comme on le sait, siège à Lausanne, en Suisse.
Donc, pays neutre quand même, normal.
Lui aussi neutre. Avec des positions qu'on a tendance à ridiculiser peut-être un peu trop rapidement. C'est des gens intelligents. C'est des gens intelligents. Et la position de Thomas Bach, elle est très, faut l'analyser, très subtile sur la question politique. Lui, il a toujours dit. Mais non, nous ne sommes pas apolitiques, nous ne sommes pas d'ailleurs non politiques, nous sommes pour la neutralité politique. Donc par exemple, quand la Russie a envahi l'Ukraine, d'ailleurs au moment, juste après les Jeux Olympiques de Pékin, c'était...
En 2014,
oui. Voilà, en 2000, pas la Crimée, là en...
22 février.
Juste après les compétitions olympiques et avant les compétitions paralympiques. Et on sait que Poutine et Xi Jinping se sont mis d'accord pour que ça ne se fasse pas pendant les Jeux olympiques.
Oh non,
mais ceci dit, pour le CIO, c'est pas la guerre qui les gêne. Hein. Ce qui les a gênés, c'est que Poutine ait rompu ce qu'ils appellent la trêve olympique. Hein. C'est-à-dire qu'il ait osé faire envahir un pays alors qu'il y avait encore les Jeux olympiques. C'est ça qui les gêne. Hein. C'est ça qui les gêne. Mais pour le reste, donc c'est la rupture de la trêve olympique et donc voilà et c'est pour ça qu'ils ont exclu la Russie. Enfin, et puis avant il y avait le dopage.
Hein. Ouais, puis trêve olympique, il y a bien des endroits où les conflits était en cours pendant les Olympiades.
Bien sûr.
De toute façon, ici, il y en a toujours en cours, donc c'est pas...
Bien sûr, il y a des conflits permanents et nombreux, mais par exemple, pour Sotchi, moi j'avais repris les dates, voyez, avant Sotchi, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, absolument gigantesques, organisés par Poutine, modification complète d'un paysage, il faut voir, les montagnes déplacées, des forêts complètement dévastées, des fleuves qui sont détournés, la construction d'un aéroport en plein milieu de la ville, des axes routiers partout, des tunnels, enfin, etc. Ces Jeux Olympiques, ils ont lieu du 7 février 2014 au 23 février 2014, et bien la guerre de Crimée, c'est trois jours après, le 26 février, Poutine envoie ses troupes.
Oui, on touche pas aux Jeux Olympiques, quoi.
Non, mais ça se fait en même temps.
Oui.
Voilà. On profite, entre guillemets, des Jeux Olympiques pour un grand moment de ferveur, etc. D'éblouissement. Ouais, et puis tout d'un coup, boum, on envoie l'armée.
On va se mettre un peu de musique.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosophie. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, jeune conscrit, il vaut mieux déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Les élus foulés à la potence, lorsque l'on souffre, on doit pouvoir châtier. Leurs électeurs, foyeux-les d'importance, envers aucun, il ne faut de pitié. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots, hâtons la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté.
c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher.
Radio Libertaire, 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste.
Une coproduction chronique syndicale et...
La philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Avec Marc Perelman, 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Au-delà
faut
de...
pas rêver.
Faut pas rêver.
Non, ça c'est bon.
Au-delà de ça, et donc des liens très étonnants entre olympisme et nazisme dans les années 30, aujourd'hui on s'aperçoit que les Jeux Olympiques... Dans une ville, quand elle les organise, la ville perd ses droits, le droit du travail n'existe plus, et l'économie tout entière est inféodée aux lois olympiques. C'est-à-dire que la souveraineté nationale, dont je me contrefous par ailleurs, est très largement minimisée, choquant. Voire disparaît.
Tout à fait, ouais, là, on a vraiment comme une espèce de prise de possession du territoire. En l'occurrence la France, enfin bon, les régions françaises...
Et les gens qui sont dedans, hein.
Voilà, voilà. Prise de possession, prise en otage d'ailleurs aussi des villes, hein, enfin de Paris, et de ses monuments, hein, puisque les monuments vont être olympisés. Hein.
Alors c'est quoi olympiser
des... Olympiser, ça veut dire qu'il va y avoir des banderoles, du CIO...
L'Arc de Triomphe.
La plupart des monuments, hein, la plupart des monuments vont être entourés des symboles de l'Olympisme, les anneaux, etc., etc. Quoi. Donc là, il y a vraiment une prise en otage, hein, des monuments historiques publics, hein, qui sont notre patrimoine, Notre-Dame, etc. La Tour Eiffel, évidemment, l'Arc de Triomphe. Bon.
Oui, et puis tout.
Voilà.
C'est,
et les villes, et les rues, les avenues, hein, par exemple les Champs-Élysées, etc., etc. Donc là, c'est tout d'un coup la puissance, disons, d'une structure. Privé, ça faut quand même pas, enfin, s'en souvenir. Hein. Le CIO est une structure, est une organisation internationale à but non lucratif, hein,
mais et financièrement très puissante.
Voilà, et à but non lucratif, hein, mais qui va prendre possession de la ville pendant plusieurs semaines, et l'État va disparaître. Quoi.
Mais la loi,
ou plus exactement, l'État va se mettre au service du CIO.
Hein. Oui, parce qu'on n'a pas de loi qui permette ce genre de choses.
Non, alors. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est l'État lui-même, en l'occurrence l'État français, qui fait voter une loi, la loi olympique et paralympique. Il y a eu une première en 2018, il y en a une deuxième là, qui vient d'être votée en 2023, là, et puis radicalisée par le Sénat, on en parlera. Mais c'est l'État lui-même qui organise sa propre suspension, d'une certaine façon. Quoi, hein. C'est ça qui est tout à fait étonnant.
Oui, parce qu'en vérité, les textes, ils sont faits par le CIO, ils sont pas faits...
Complètement,
c'est le CIO. C'est pas l'État qui rédige les textes.
Non, c'est le CIO qui impose, voilà, son diktat en termes d'organisation, de maîtrise de l'espace et du temps, à ce moment-là, où tout devient vraiment olympique. Quoi. Et de ce point de vue-là, voilà, il n'y a aucune résistance de nulle part, hein, qui est là pour dire quand même, attends, qu'est-ce qui se passe ici, quoi, voilà. Oui. Au contraire, on a vraiment l'impression d'un consensus et même d'une... Enfin, on approuve véritablement ce qui se fait, les lois olympiques passent vraiment comme sans problème, pas de protestation, alors que ce sont des lois liberticides, hein, tout simplement.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document qui est épais,
ouais,
et où tout est prévu dedans, hein. Il n'y a pas grand-chose qui passe à côté, ou sinon, on ne le voit pas.
Tout à fait.
C'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas, simplement une petite direction des choses dans le genre.
Non, c'est une vraie loi. Hein. C'est-à-dire que ça a été vraiment rédigé par des juristes, ça a été vraiment défini par des hommes, des femmes de loi. Et donc, il y a vraiment... Et le CIO est évidemment extrêmement pointilleux sur le moindre élément qui pourrait le défavoriser.
Il n'y a pas de faille, quoi.
Il n'y a aucune faille. Le CIO dispose évidemment d'une armée d'avocats qui lui permet, et puis d'un contrôle permanent, hein. Le CIO vient régulièrement visiter les chantiers, etc., et donc voit l'état d'avancement des choses, voit comment, du point de vue juridique, les choses avancent, etc., et se garantit surtout de tout. C'est-à-dire qu'avant même que les Jeux Olympiques démarrent, dès la décision, tout était déjà organisé, hein. C'est-à-dire que les syndicats, on allait leur faire signer un contrat,
une
charte sociale, et tous les syndicats ont signé, CGT, UNSA, CFDT, bon,
Tous ont signé.
Charte qui remet en cause le droit du travail hexagonal.
Exactement.
Et c'est un droit du travail CIO, d'une certaine manière, qui s'applique sur les chantiers.
Complètement. Hein, remise en cause du droit du travail, possibilité de faire travailler les gens à n'importe quel moment. Bon, et de fait, les dérives, entre guillemets, qu'on voit actuellement sur les gens qui travaillent sans papier, sans etc. C'est ça, sans contrat de travail.
Oui, hein, c'est ça, parce que les contrats, il n'y en a pas.
Non, bien sûr que non, hein, parce qu'il faut faire vite. Parce qu'en même temps... c'est ça aussi ce sur quoi je veux, insister, c'est que l'organisation olympique, c'est un formidable chamboulement urbain. C'est ça aussi qui est le fond du problème. C'est que c'est une vraie transformation, comment dire, de l'organisation urbaine, hein, de là où se situent évidemment les compétitions. Ouais. En l'occurrence, c'est l'Île-de-France. Hein.
Ouais. Et on voit les transports en commun,
voilà. Les Jeux Olympiques,
c'est Haussmann en 2023, quoi.
Exactement. Les Jeux Olympiques, c'est alors non pas Haussmann au sens où on détruit le vieux Paris, mais c'est on construit un véritable réseau, hein, de transport, 68 gares, 200 km de tunnels. Bon, bref, un truc absolument énorme. La circulation est devenue l'élément central, disons, de la mise en œuvre, vous voyez, de l'ordre, hein, en quelque sorte, olympique. C'est très intéressant de voir comment, tout d'un coup, le BTP, hein, les Bouygues, les Fage, etc., se sont évidemment rués sur ces trucs-là, parce que construire 68 gares, bon, c'est déjà, ça rapporte beaucoup, mais dès que vous construisez une gare, autour, c'est du logement. C'est du logement, c'est des constructions, etc. Donc c'est tout d'un coup une manne financière absolument gigantesque. Et donc là, comme on dit vulgairement, les Veolia, etc., ils se gavent. Ils se gavent véritablement sans aucune protection, puisque moi j'ai pu voir, hein, il y a beaucoup de reportages sur des gens qui sont expropriés. Des gens, par exemple, à Rosny, à Bondy, etc., qui se trouvent sur le tracé ou sur des lieux où doivent être déblayés, où on doit mettre les déblais des gares, hein, eh bien, les gens sont expulsés, mais on ne dit rien. Et là, le CIO a pris toute disposition pour que, effectivement, l'État français fasse signer, ils étaient d'accord, hein, fasse signer une charte sociale au syndicat, et dans ce cas-là, il n'y aura rien, il n'y aura pas de grève.
C'est muselé.
C'est totalement ouais. Muselé.
En parlant de BTP et de circulation, ce que tu disais par rapport à la privatisation des monuments parisiens, voire au-delà, c'est des rues qui vont être privatisées aussi pour déplacer les sportifs et déplacer les délégations, quoi.
Tout à fait.
Donc il y a des rues dans lesquelles je pourrais plus aller, moi.
Exactement. Et il y en a beaucoup. Je les ai pas apportées là, mais on le retrouve sur Internet. Hein, l'ensemble des rues qui vont être soumises, disons, à la circulation olympique. Hein, ce qu'ils appellent les voies olympiques, qui vont permettre tout simplement aux dignitaires, aux édiles olympiques, aux sportifs, etc., aux journalistes, de prendre ces voies olympiques, et qui ne seront évidemment pas possibles pour tout un chacun. Mais il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Il y a un décret qui est paru récemment, enfin il y a peut-être quelques mois, oui, où vous avez rue par rue, avenue par avenue, boulevard par boulevard, l'ensemble du dispositif de circulation, qui est une remise en cause complète, disons, de la liberté de circuler, tout simplement, dans nos villes. Personne ne bouge, au nom de l'olympisme. C'est quand même extraordinaire.
Donc on privatise les monuments, on privatise la voie publique, on privatise le droit du travail, on CIO tout.
Exactement.
L'Olympisme.
Oui, tout à fait, c'est ça qui est assez troublant, hein, et qui montre peut-être aussi la faiblesse politique actuelle. Hein, il y a encore quelques années, il y avait des réactions par rapport à ça. Il y avait des courants politiques, disons, qui s'insurgeaient, qui étaient capables, disons, d'analyser.
De faire une critique, quoi.
Ouais, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'approbation... ou dans le laisser-aller, plutôt. Voilà. C'est plutôt ça, un laisser-aller général, mais qui est une véritable prise de possession, disons, de notre organisation publique, hein, sous la puissance d'un organisme privé, parce que n'oublions pas, le CIO est un organisme privé. Hein,
Excuse-moi. Tu dis qu'il y a des choses qui se construisent dans les transports et tout, mais est-ce que ça... Parce que là, on a toujours l'argument classique, c'est bien que ça soit fait au moment des Jeux Olympiques parce qu'on va pouvoir en profiter au quotidien après. Alors déjà, les équipements sportifs, on sait que c'est pas vrai. Mmh. Une piscine olympique et une piscine familiale n'ont aucun rapport.
Exactement.
C'est, on parle pas de la même chose.
Et puis il y a plein de choses qui ont été construites dans diverses villes qui aujourd'hui sont en pleine décrépitude.
Tout à fait.
Il suffit d'aller mine de rien sur YouTube et voir les villes des Jeux Olympiques. Il y a toujours plein de vidéos dessus. C'est catastrophique.
Alors il y a des exemples pires que d'autres, hein, Athènes oui. par exemple, etc. Bon, mais bon, alors en France c'est un petit peu différent parce qu'il y a une puissance de l'État hein, qui fait que voilà, il paye. Mais c'est vrai que par exemple, le Stade de France, on nous disait que ça allait régénérer la Seine-Saint-Denis.
Ça n'a rien fait.
Rien du tout. Hein,
si ça fait une zone complètement vide. Ouais. Froide et sans vie.
Voilà. Parce qu'un stade, en l'occurrence, alors ça allait être bien pour la population, etc. Mais les gamins ne jouent pas au Stade de France. Je veux dire, le Stade de France, moi j'ai regardé, hein, la programmation c'est 20 spectacles par an. Bon, 20, 25, 30 maximum. Le reste de l'année, c'est vide.
Et puis les prix aussi sont extrêmement forts.
Les prix sont forts, mais surtout l'entretien. Et puis la location, le stade, le PSG avait toujours refusé hein, de s'installer là. Donc aujourd'hui, c'est une structure de vidéo d'ailleurs, de vidéo qui s'appelle Vitality, ça on le sait pas, qui occupe le Stade de France, hein, qui fait de la vidéo. Hein, ça coûte énormément cher. Hein, Donc. Beaucoup d'argent dans les équipements, hein, piscine, etc., en nous disant ça va être l'héritage. Le grand thème, c'est ça, c'est héritage, legacy, comme ils disent. L'héritage. Mais pour apprendre à nager, on n'a pas besoin d'une piscine olympique.
Non, hein, et en plus, ça ne fonctionne pas de la même façon.
Non, et puis une piscine olympique, moi je sais le coût que c'est, l'entretien. Hein, vous allumez une ampoule, ça coûte une blinde, hein, pour chauffer la piscine, pour etc., etc. On le voit là avec les restrictions actuelles, les piscines sont obligées de baisser les températures de l'eau, faire attention à la lumière, etc. Mais ça coûte une fortune. Donc, les municipalités qui sont déjà pauvres, elles pourront pas... Et elles permettront pas aux jeunes de venir dans ces piscines-là. Parce que, en termes d'entretien, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Donc, elles seront vides.
Il y a les logements aussi, on nous dit.
Un village olympique qu'on va transformer en logement après. Ouais. Mais donc, il y a un double coût de construction, d'une certaine manière.
Au moins une grande œuvre. Oui, parce qu'en vérité, le logement olympique n'a aucun rapport avec des logements de vie.
Exactement. C'est des logements pour les athlètes.
C'est des cellules où on fait du sport. Et ce n'est pas des lieux familiaux ou des lieux de vie.
C'est des chambres, hein, des chambrées pour un athlète, deux athlètes, pour ceux qui ne sont pas connus. Les athlètes très connus, ils iront plutôt Lutetia dans les hôtels de luxe. Mais voilà, après, ça veut dire ce coût de construction-là, et puis un deuxième coût de construction qui va être la rénovation pour, effectivement, de l'habitat... familial, si je peux dire, qui va coûter évidemment très cher.
Ouais, mais peut-être des loyers qui ne seront pas abordables par les populations de Seine-Saint-Denis.
Non, parce que ce qui est sûr, ça c'est évident, d'ailleurs même Brauzek le disait, hein, c'est
Brauzek, ancien maire de Saint-Denis, président de la communauté de...
Ex-président, mais il a toujours des grandes envies d'être quelque part, et sur le sport, il en a toujours rêvé, puisqu'à un moment, il a rêvé d'être ministre des Sports, quand même.
Tout à fait.
Sur le Staline.
Ouais, c'est vraiment lui qui a mis en œuvre le Stade de France, les Jeux Olympiques, etc.
Avec un super double discours. Le double discours au niveau de la population, c'était « il faut s'opposer au Stade de France, nous s'opposerons ». Et lui, il a été signé. C'est un politique. Hein.
Et du coup, ces équipements-là, les logements, alors... contrairement à ce que disent certains qui essayent de lutter ou de veiller à ce que ça se passe bien en Seine-Saint-Denis, moi, je pense pas qu'il y ait un saccage, justement, hein, pour reprendre le terme de la... Non, au contraire, ils vont embourgeoiser tout ça.
Mais les populations actuelles
vont reculer, enfin, vont s'éloigner encore plus.
Ils vont partir dans le 95 derrière. Voilà. Mais de toute façon, c'est lié... 2024, c'est la date. Mais en fin de compte, l'évacuation de la population... la rénovation dans certains lieux de Saint-Denis, c'est déjà commencé et ça continuera après. Puisque le but, c'est d'absorber, c'est le Grand Paris, c'est d'absorber...
Oui, complètement, complètement.
Dans Paris, hein.
Oui, complètement. Donc ça, c'est intéressant de voir comment, comment les Jeux Olympiques permettent justement la construction, alors au nom, évidemment, du bien, enfin,
c'est
du bonheur,
pour nous.
Etc.
C'est pour nous.
C'est pour nous, de la Seine-Saint-Denis, etc. Mais bon, la Seine-Saint-Denis, c'est quoi, hein? C'est qui? C'est une géographie, c'est un paysage, c'est des gens, voilà. Et là, effectivement, on va voir... En peu de temps, hein, comme par exemple le Grand Est, voilà, à Londres, hein, à Stratford, on va voir comment un lieu a été, mais en quelques mois, hein, a été littéralement vidé de sa population et remplacé par, alors pour le coup, le remplacement a été remplacé par une autre population. Hein. Et ça, en Seine-Saint-Denis, ça va se faire, je pense, au moment là. Déjà, comme tu dis, c'est déjà parti, mais ça va s'accélérer, évidemment, avec la construction des gares, avec la construction, la rénovation de l'hôtel qui va devenir un hôtel de luxe, voilà, le village olympique, etc., etc. Où là, tout d'un coup, bah, c'est des lieux de spéculation absolument énormes, hein, énormes. Hein, voilà, où va s'installer, je pense, une nouvelle petite bourgeoisie, ou bourgeoisie même, urbaine, qui sera à deux pas de Paris.
C'est de la croûte moyenne, voilà. Assez basse quand même, hein, qui va arriver. Mais ça va évoluer avec ça.
Dépend. Ça dépend.
C'est les premières qui vont arriver.
Voilà, parce que là, ce qui va se construire, ça va être un peu chicot, ça. Hein. Moi, j'ai vu ce que fait Perrault, par exemple. Non, c'est pas du logement social. Hein. C'est vraiment des choses qui vont être, qui vont être vraiment avec de l'informatique,
de la fibre et tout ça.
C'est vraiment pour une population déjà branchée, hein, câblée.
Et il y a un autre élément qui m'a bien intéressé dans ton bouquin, là, c'est ce qui se passe avec l'école, c'est-à-dire que non seulement on olympise la ville, on privatise des choses comme ça,
mais
toutes les écoles doivent conduire des projets autour des Jeux Olympiques, du sport, de la charte, des choses comme ça. Donc au niveau idéologique, il y a un vrai projet. Il y a un projet qui est partagé entre l'olympisme et éventuellement nos dirigeants.
Tout à fait. Ça, moi, j'ai pu consulter les bulletins, hein, en particulier en Seine-Saint-Denis, où chaque bulletin, c'est la promotion du sport, du CIO, de l'olympisme, de la compétition, etc., etc. Où on a l'impression que pour résoudre les problèmes, hein, qui sont énormes en Seine-Saint-Denis, il n'y a qu'un seul moyen... c'est qu'il y ait de la compétition sportive. Quoi. Ça, et du plus bas niveau, ça. Avec... toutes les thématiques, les maquettes pédagogiques qui vont avec, hein, où ils vont insister sur raconter à leur manière, hein, évidemment, l'histoire de l'olympisme, l'histoire du sport, l'histoire des grandes compétitions, l'histoire des grands sportifs, etc. etc. Participant, vous voyez, d'une espèce de mythologie grandiose, hein, une échelle quand même assez énorme, hein, mais qui permet d'autant plus d'effacer, disons, justement la réalité crue, si je peux dire, de ce qui est vécu quotidiennement.
Hein, de la misère des bâtiments, de la surpopulation scolaire, des profs mal payés, des gamins...
Là, il y aura des budgets, quand tu feras un projet qui tourne autour des Jeux Olympiques, il y aura du fric de détaché. Ouais. Parce qu'on va attirer les gens comme ça. Parsemer un peu de subventions et de fric pour pouvoir faire ce type de projet.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et avec...
en plus, c'est de la maternelle à l'université, quand même.
Exactement.
En plus,
exactement,
c'est pas...
Exactement. Ouais, c'est, les enseignants, hein, c'est ça aussi,
sont largement
incités, comme on dit, à participer à ce mouvement qui est un mouvement de reconnaissance, disons, des bienfaits du sport, de l'olympisme, parce que l'olympisme, hein, c'est les grandes valeurs, hein, c'est ce qu'ils appellent le développement harmonieux du corps, ce qu'ils appellent la société pacifique, la dignité humaine, voilà, c'est les grandes valeurs, disons, de l'olympisme, bon, dont tout le monde, évidemment, devrait pouvoir profiter.
Oui,
sauf que l'olympisme, c'est tout à fait autre chose.
Il y a une confusion entre sport et olympisme, déjà, là. Parce que le sport est déjà bien monté sur l'autoritarisme, sur la réussite individuelle, mais derrière, on a beau faire des... On fait le foot un sport collectif, mais c'est pas du tout un sport collectif, puisqu'on en sort deux qui sont les grandes vedettes et qui vont changer les résultats. Donc
oui, tout à fait. C'est bon. Après, il y a une confusion évidemment sur le terme même de sport, hein, qu'est-ce qu'on entend, bon voilà, mais et une confusion sur Jeux Olympiques, c'est pas des jeux, hein, parce que pour moi le jeu c'est au contraire ce qui a à voir avec la gratuité, avec la spontanéité, avec la mixité. Or les Jeux Olympiques c'est pas du tout la mixité, et on me dit mais si il y a des hommes et des femmes, oui, mais c'est
ils
pareil,
sont séparés,
vous voyez pas sur la même ligne de départ, que ça soit dans les bassins ou autre. Alors je crois qu'il y a sur 306 épreuves, il y en a 9 qui sont mixtes, je crois, le sport équestre, le curling, etc.
Le
tennis, bon, le double, ouais. mais ça on le voit pas. Je leur dis mais le sport est fondé sur la séparation des sexes.
Oui, c'est pas ensemble mais côte à côte.
Ah bah oui, mais sur la séparation des sexes.
Ouais. Il y a un autre élément aussi quand même dans cette affaire d'école, j'y reviens parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est la question de la compétition. Ouais. C'est-à-dire la compétition sportive renvoie à la compétition scolaire et renvoie à la compétition sociale, c'est-à-dire que ça nous fait accepter le système autoritaire de la reproduction.
Oui, il y a la compétition sportive est largement, comment dire, vécue comme une compétition naturelle. Hein. Autant sur la compétition économique, il y a des critiques. La plus-value, l'extorsion de la plus-value, la rentabilité, le rendement, etc. Ça, c'est critiqué, encore,
peut-être
de moins en moins, mais la compétition sportive, alors pas du tout. Là, au contraire, là, c'est l'épanouissement.
T'es le meilleur, t'es le premier.
Voilà, ce qui est de l'ordre, précisément, de la violence la plus incroyable, qui est un seul gagnant, qui est une seule équipe gagnante, pour un reste de vaincus, parce que c'est comme
qu'on
ça,
ne voit pas.
Qu'on ne voit plus, qui est effacé, et bien ça c'est accepté comme étant précisément une valeur, disons la valeur cardinale finalement de l'homme contemporain.
Jatte, avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître, le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître, ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître, cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style, ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Radio Libertaire, 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste.
Donc, chronique syndicale et philanthropie de l'ouvrier charpentier avec...
Avec Marc Perelman autour des espèces de cancers qu'on appelle les Jeux Olympiques.
Voilà, et de son livre...
Excuse-moi, j'ai trouvé le mot comme ça.
2024, les Jeux Olympiques n'ont pas lieu aux éditions du
Détour. C'est vrai que ça s'infiltre de partout, hein, quand même.
Voilà. Il y a aussi une chose... Alors, on a dit, il va y avoir du logement, c'est pas forcément vrai. Il va y avoir ceci, c'est pas forcément vrai. Il va y avoir beaucoup d'argent, mais ça ne profitera pas forcément aux populations. Il va y avoir beaucoup de choses autour de l'éducation pour maintenir cet esprit de compétition. Mais on nous a aussi dit, il va y avoir beaucoup d'emplois.
Oui, ils avaient prévu, je sais pas, une centaine de milliers d'emplois.
Ah, quand même, c'est
oui,
bien.
Qui est prévu, et c'est pour ça d'ailleurs que les syndicats ont évidemment signé, approuvé, etc. Bon, on voit que ce sont des emplois qui ont surtout à voir avec, c'est vrai, la construction actuelle des chantiers, hein,
le BTP. Voilà,
du BTP, beaucoup. Pour le reste des emplois, ce sont des emplois vraiment très très précaires, hein, c'est-à-dire vraiment des emplois éphémères, au sens où les Jeux Olympiques vont durer ce qu'ils vont durer, c'est-à-dire 15 jours olympiques et 15 jours paralympiques. Ça va durer entre les deux, un petit peu après, etc. Mais après, ça va disparaître. Oui, donc ces emplois-là vont disparaître. Oui. Mais ils nous disent d'ailleurs 150 000 emplois. Bon, mais en fait, ils disent sur 10 ans. Hein. Quand tu ramènes ça à 10 ans, ça fait 15 000 emplois par an. Finalement, c'est.
C'est pas grand-chose. Année où il y a un taux de chômage à 35%.
Donc, voilà, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc le truc de l'emploi, d'ailleurs, ils en parlent moins hein, maintenant. Hein. Ils en parlent moins, c'est bon. Voilà. Mais ouais, ça fait partie. De cette espèce de miroir aux alouettes où tout est bon à dire.
Voilà, bah, alors que, tous les alors arguments que, sont bons, voilà, quel qu'ils soient.
Voilà, ouais. Alors que, bon, alors que ça tient évidemment pas debout.
Quoi. Oui, sachant que c'est quelque chose qui ressemble à du travail dissimulé quand même aussi, parce qu'il va y avoir 70 000 bénévoles qui vont faire le boulot exactement. Sans être payés. Quoi.
Exactement.
Ouais, oui, mais déjà
ils auront droit à un t-shirt peut-être.
Déjà le BTP avant, c'est une grande spécialité quand même, le ouais. travail. Dissimulé.
Oui. Alors les gens sont quand même payés. Hein, bon, n'ont pas de contrat de travail. Hein, a priori, sont payés. Bon, on voit les syndicats quand même peu regardants hein, sur tout ça. Hein. Monsieur Bernard Thibault, ancien leader de la CGT, qui fait partie hein, aujourd'hui, disons du staff olympique, hein, puisqu'il est en tant que membre de l'OIT, et que l'OIT
donc, Organisation internationale du travail,
qui est une vieille association avec le CIO, hein, OIT et CIO depuis les années 10, hein, 1910 sont liés. Et bien Bernard Thibault fait partie du staff olympique. Bon, lui, ça ne l'a pas gêné, ça ne le gêne pas beaucoup que, voilà, que les gens n'aient pas de contrat, qu'ils travaillent dans des conditions voilà, qu'il y a des morts, hein, qu'il y a beaucoup de blessés, que les conditions de travail aussi soient tout à fait déplorables, parce que la pression est très puissante. Hein. Le CIO impose un rythme, ouais, une temporalité, disons, voilà, de phase hein, d'exécution de travaux où ils viennent vérifier régulièrement hein, où on est l'état des travaux. Il ne s'agit pas d'être en retard. Parce que dans ce cas-là, vous avez des amendes.
Pénalité,
c'est ce qui est indiqué, hein, ouais. C'est indiqué dans le contrat olympique. Dès que vous avez un peu de retard, boum, ça vous tombe dessus. Hein. Donc, il faut être vraiment toujours au taquet. Bon, les syndicats, ils bougent pas la tête. Il bouge pas là-dessus. Donc, voilà, en termes d'emploi, c'est une vraie illusion, quoi. C'est une vraie illusion, quoi.
Oui, donc, moi, je disais, pour la construction, c'est le BTP, et après, ça va être tout ce qui est hôtel-restauration. Sur les histoires de sous-paye, de non-contrat et tout, c'est les deux qui ont quand même des pratiques assez traditionnelles.
Oui, mais l'hôtel-restauration, ça va durer qu'un temps.
Oui, ça dure qu'un temps et là aussi ils mentent. Enfin, Madame Hidalgo ment, mais je sais pas, c'est Pinocchio,
elle doit avoir. Non, sinon elle peut plus marcher là.
C'est pas possible. Mais elle parle par exemple de 13 millions de visiteurs olympiques. Mais elle confond le nombre de visiteurs et le nombre de billets qui vont être vendus. Il va y avoir effectivement 13 millions de billets vendus puisqu'il y a plus de 300 compétitions. Là, donc, mais chaque spectateur aura un panier de billets très important. Ils ne viennent pas pour voir juste de la natation, ils viennent voir. Bon. Mais le public olympique, ça j'ai bien analysé ça, le public olympique, c'est 300 000 qui viennent de l'étranger, hein, c'est 300 000, 500 000 personnes, grand maximum, qui souvent, d'ailleurs, et de plus en plus, remplacent le public habituel. Par exemple, aux Jeux de Londres, par exemple, on s'est rendu compte que le public olympique a remplacé, s'est substitué au public classique qui venait à Londres pour visiter le British Museum.
Et donc ça ne fait pas plus de touristes, ça fait d'autres touristes.
Ça fait d'autres touristes. Et un tourisme qui est, dans le panier, si je peux dire, est plus faible. Hein. Ils ont plutôt dans les hôtels moyens, plutôt dans les campings, que le tourisme, disons, classique.
Hein, de très haut de gamme, quoi.
Plutôt haut de gamme. Donc, de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques, par exemple de Londres, hein, il y a eu des rapports que j'ai lus très précis où l'hôtellerie anglaise se plaignait en disant « pour nous, ça a été une catastrophe ». Une catastrophe, en fait, il y avait un taux d'occupation absolument dérisoire quoi, des hôtels. Les commerçants aussi ont vu très peu passer de gens. Donc, du point de vue voilà, du tourisme que peut amener les Jeux Olympiques, là aussi, c'est une vaste supercherie. Hein. C'est un pur mensonge.
Oui, mais je crois qu'il y a déjà eu des réflexions des organisateurs du tourisme traditionnel sur Paris qui disent que sur 15 jours, ça va tout bousiller leur saison.
Exactement.
Parce que, comme tu dis, les gens qui viennent pour les Jeux Olympiques, ils mangent déjà tout ce qui est amené par les Jeux Olympiques.
Ouais, ouais.
Donc la restauration ne va pas mieux fonctionner. Hein.
Non, non,
c'est une autre restauration.
Voilà, c'est une restauration olympique. Hein. Alors McDonald's a été vidé comme sponsor.
Oui.
McDonald's a été très longtemps sponsor des CEO, mais vous avez toujours Coca-Cola, etc. Et donc, voilà, il y a vraiment là aussi un package olympique qui fait que, voilà, on ne peut pas sortir, si je peux dire, d'une bouffe alternative à ce que propose le CIO, hein. ça va être
oui,
aussi
puis
très, très...
En termes de visites et tout, les gens ils viennent pour les Jeux Olympiques, après c'est tout.
Hein. Oui, bien sûr. Non, puisque tu notes dans le livre aussi, par rapport aux visites, c'est comme les monuments vont être cagoulés avec des oriflammes olympiques, on ne peut plus faire du tourisme habituel pour voir les merveilles architecturales de la ville. Quoi.
Complètement, complètement. La ville est prise en otage, hein, c'est ce que je dis. Elle est prise en otage pendant 15 jours, avec l'accord évidemment, et au contraire avec l'appui même, hein, et avec l'engagement hein, de la ville de Paris, qui voilà, se met au service tout d'un coup, encore une fois, d'un organisme international privé, hein, qui est le CIO. Donc ça, c'est quand même une affaire absolument incroyable. Bon, pour la France quand même, hein, qui est un pays bon, avec quand même une certaine tradition du public, etc., qui ne voit pas ça. C'est ça que je trouve tout à fait intéressant.
Quand on écoute la presse, quand on lit les journaux et tout ça, sauf à te rencontrer et à côté Radio Libertaire, c'est difficile de le voir.
D'ailleurs, je remercie Radio Libertaire de m'inviter, mais je suis invité nulle part. Hein. Je devais être invité dans différentes émissions. Au dernier moment, c'est annulé. Hein. Je devais être invité avec Alain Finkielkraut. Finalement, je l'aime bien. Et finalement, il a annulé. Voilà. Donc, la question du sport, hein, est vraiment une question incroyablement violente.
Ouais, c'est pas touche pas à mon pote, c'est touche pas à mon sport.
Touche pas à mon sport. C'est incroyablement violente dans la, voilà, dans les rapports hein, qu'on peut avoir les uns les autres autour de cette question-là. Parce que sans doute, le sport touche à la question fondamentale qui est la question du corps. Hein, voilà, qu'est-ce que peut le corps, comme disait Spinoza, qu'est-ce que peut le corps aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Bon, le sport apparaît comme une espèce de à la fois de promotion, de refuge aussi, hein, de refuge, de communauté, des corps organisés pour la promotion, voilà, d'une manière de vivre, de joie de vivre, de mouvement, hein, etc., etc. Bon, quand on analyse plus finement, et c'est ce que j'ai essayé de faire à la fin du livre dans des thèses hein, sur le sport. Bon, c'est de montrer qu'au contraire, hein, la prise sur le corps, ou l'emprise sur le corps, comme disait Michel Foucault, est une emprise incroyablement violente, hein, une emprise où c'est l'ordre, hein, c'est un ordre corporel qui est imposé, et il est à ce point puissant qu'il assujettit les individus, c'est vrai, au chronomètre, à l'espace. Les deux grandes catégories du temps et de l'espace hein, sont véritablement métamorphosées par la compétition qui devient un ordre en tant que tel, dans lequel le corps est véritablement organisé, canalisé, transformé pour cette compétition, dans une espèce de bonheur généralisé, qui fait la puissance de l'adhésion même. Hein. Alors, quels sont les mécanismes d'adhésion? Ça serait intéressant de voir un peu plus profondément. Qu'est-ce qui fait adhérer finalement les gens à ça? Je pense qu'il y a une multitude de choses.
Ouais, enfin, c'est une forme d'aliénation collective quand même.
Oui, mais bon, par exemple, à l'usine, on se rend compte qu'on est aliéné. Hein, voilà, on se rend compte que voilà, on travaille comme des cons, etc. Le sport, non. On travaille comme des cons, mais...
Les sportifs ont une vie de chien.
De chien, mais c'est de l'ordre du masochisme. Hein, c'est-à-dire que... On l'accepte, hein, ça fait mal, mais c'est bon.
Oui, non, mais c'est ça. C'est toujours une réflexion qu'on a eue. Voilà. On a la notion aussi de sculpture du corps.
Ouais.
C'est un truc, on le voit beaucoup sur les jeunes qui sont dans la sculpture, complètement. Alors, ils passent beaucoup, beaucoup par le sport, et s'ils ne passent pas par le sport, ils vont passer par des exercices spécifiques du troisième muscle à gauche ou des choses dans le genre. Et c'est quelque chose qu'on voit couramment. Il y a une espèce de culte de ces espèces de corps fantasmatiques, parce qu'un corps, c'est fantasmatique, hein, c'est pas autre chose. Et il y a une culture de la de vraiment la sculpter. On va la sculpter. Il y a eu un truc sur les gamines, je crois, qui devaient avoir les jambes plus arquées ou des trucs dans ce genre-là. C'était de la sculpture, c'était de la folie furieuse. Ouais. Il faut qu'on intervienne pour montrer une espèce de corps fort ou une domination sur son propre corps, ce qui n'est pas vrai du tout. Parce qu'ils peuvent faire du sport ou pas du sport, ils vont au même endroit. Hein. C'est-à-dire, ça ne faut pas non plus. Il y a un culte. Hein.
Complètement. En parlant du culte et puis du corps, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce personnage qui était un baron, monsieur de Coubertin, là,
Freddy. Pardon, Freddy, il s'appelait.
Freddy.
Oh, Freddy.
Freddy.
Ah, c'est pas terrible.
Ça fait un peu vulgaire, Freddy.
Non, moi. Je suis déçu.
Voilà. Et donc, ce personnage, peut-être en dire quelques mots, puis reprendre quelques citations. Effectivement, cet homme était un néo-proto-fasciste.
Oui, il a été. Alors, fasciste. Bon,
il s'est peut-être pas engagé en tant que tel, mais quand on lit son texte, on s'y retrouve.
Ouais, colonialiste, impérialiste,
antisémite.
Oui, ouais, il a quand même pas mal de choses.
Oui, anticommunard, évidemment. Voilà, mais une figure très forte. Hein. Il faut lire, hein, parce qu'il a écrit énormément. Hein. C'est un type. Vous voyez, c'est ces grandes figures, ouais, ces grands esprits positivistes, hein, comme Hippolyte Taine, comme des gens comme ça, qui ont écrit énormément, hein, et qui ont façonné aussi idéologiquement nos pensées. Hein. Voilà, c'est vrai que le sport, on le pense à travers ce qu'a dit ou ce qu'aurait dit Coubertin. Participer.
Participer, c'est plus important.
Juste pour faire deux petites citations, là. Par exemple, sur Jeux Olympiques et les femmes, donc, que tu as repris, il l'écrit. Une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle. Où serait l'intérêt ? Impratique, inintéressante, inesthétique. Et nous ne craignons pas d'ajouter. Incorrect. Pas mal quand même.
Il y a la totale quand même.
Petite Olympiade femelle. C'est pas joli ça? Et puis, deuxième citation, puis après je vous rends la parole à l'un à l'autre. Le peuple hébreu ne prend pas rang dans l'histoire universelle, ni du point de vue politique, ni du point de vue économique. Son rôle est à cet égard insignifiant. Les Juifs sont demeurés profondément asiatiques. On ne les connaît guère qu'à travers les capitaux amassés par certains d'entre eux.
Là, il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas la description physique, mais on n'en est pas loin.
Pas mal quand même.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il est mort en 37. Hein. Il est mort juste après les Jeux, d'ailleurs. Dans la misère, plutôt, d'ailleurs. Les nazis voulaient lui ont donné de l'argent. On voulait le nobéliser aussi. Ça ne s'est pas fait. Assez curieux, hein, le destin de Coubertin. Assez curieux. Il a été vidé, hein, de son propre organisme. Hein. C'est-à-dire qu'il a été président du CIO. Mais à partir de 25, je crois en 27, il est exclu.
Ils ont tué le père.
Ils ont tué le père pour pouvoir aller plus loin que ce que faisait le père. Parce que, par exemple, sur les femmes, bon, ça tenait pas, quoi. Hein. Je veux dire, il voyait bien que la moitié, si je peux dire, du ciel, comme disaient les autres, Mao, eh bien, devait participer au jeu. Hein. Donc, voilà, là, il y avait quand même beaucoup... voilà. Et puis, les peuples, entre guillemets, indigènes, voilà, il fallait aussi qu'ils viennent. Bon, bref,
ouais,
donc...
Mais cela dit, ils n'ont pas été trop loin non plus. Ça n'a pas été la révolution, parce que, non. Comme tu disais, là... C'est pas, ils sont pas ensemble, c'est pas du sport ensemble, c'est pas des compétitions ensemble.
Ah non, c'est...
Attention.
Non, c'est ça
le côté handicapé, on leur fait deux Jeux Olympiques, on le mélange pas.
Exactement.
Ce qu'on doit voir aux Jeux Olympiques, c'est les plus beaux, les plus forts, les dominants.
Exactement. Mais chacun dans sa. Chacun...
Mais même du côté des handicapés, c'est les plus beaux, les plus forts, du côté du handicap.
Le handicap, exactement. Bon. Et je pense que d'ailleurs, les associations d'handicapés ne disent rien, hein, alors que là. On détruit, je pense, leur vocation, leur travail, disons, par rapport à la reconnaissance du handicap. Là, le sport paralympique est vraiment la destruction du travail.
Oui, d'autant qu'il y a tout un travail idéologique où on dit tout le monde doit être mélangé dans les écoles, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et donc, société inclusive.
Exactement.
Et là, on a des jeux exclusifs qui sont olympiques.
Alors qu'ils sont présentés. Précisément, au contraire, comme des jeux qui rassemblent tout le monde. C'est ça qui est le paradoxe qui est tout à fait stupéfiant. Mais c'est bon, ce que je disais tout à l'heure. Hein, les jeux sont des jeux où ils se jouent, si je peux dire, sous la différence sexuelle. Mais quand vous dites ça, les gens vous regardent en disant ben non, les femmes, elles font leur 100 mètres, elles font le papillon, elles lancent le disque, etc. Je dis oui, mais. Ah oui, mais si c'était ensemble, les mecs gagneraient. Ah bah oui, mais là, justement, on est au cœur du problème. C'est qu'effectivement, le sport, c'est non seulement la séparation des sexes, hein, et la reconnaissance de cette séparation, mais c'est aussi le fait que le sport est essentiellement masculin. Hein. Et de ce point de vue-là, Coubertin, c'est pas qu'il avait raison. Hein.
Mais il avait pas tort.
Mais il avait pas tort de ce point de vue-là, parce que le sport, c'est essentiellement la puissance masculine, à laquelle essayent, je vais faire hurler les féministes, à laquelle essayent d'adhérer les femmes. Bon. Mais elles ne battront
jamais.
Certaines
femmes.
Oui, les femmes sportives. Mmh. À laquelle, sinon, elles ne parviendront jamais à battre.
Physiologiquement, voilà. La masse musculaire des hommes a 30% de plus que la masse
musculaire des femmes. Les hommes battront toujours les femmes dans le sport. Dans la compétition sportive.
Sauf certains sports, peut-être, comme...
tous les sports.
Tous les sports. L'escrime, le tir au fusil,
tous les sports.
Ping-pong.
Tous les sports.
Tous les sports.
Tous les sports sont domination masculine. Tous les sports sont à domination masculine. Et ça aussi, c'est ce qu'on ne veut pas reconnaître. Quoi, hein. Alors que, précisément, là, il y aurait une lutte alors, des féministes, mais au contraire, elle revendique au contraire la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Alors je suis pas sur une position comme Coubertin. Très bien qu'elle revendique ça, hein. Bon, mais c'est une erreur profonde. Ce qu'il faudrait dénoncer, c'est au contraire de montrer que le sport et la séparation des sexes a comme principe essentiel la séparation des sexes et a comme principe la supériorité masculine. Parce que le sport féminin, les résultats, les performances, les prouesses, les records, etc., sont toujours en deçà des prouesses masculines. Toujours en deçà.
Mais ça va peut-être
se modifier. C'est aussi l'Olympisme, c'est la reconnaissance de cette différence-là. Hein. Mmh. C'est l'homme qui domine. C'est l'homme qui domine.
Oui, on est dans le traditionnel. Mais ouais. Ça va peut-être se modifier avec l'e-sport.
Exactement.
Parce qu'il n'y aura pas le même rapport exactement. Physique et les exactement. 30% de exactement. Musculaire
exactement.
De plus.
Exactement. Ouais. Ça, je pense que c'est un élément, disons...
Même pour le handicap, d'ailleurs.
Hein, ouais, c'est une tendance, je pense, actuelle du CIO, hein, qui, encore une fois, ne sont pas des idiots et qui voient bien que bon, déjà, la mise en œuvre de la compétition sportive,
c'est
trop lourd. Hein. Ça demande des masses de temps, d'énergie, etc. Alors qu'on a quelque chose qui est en train de se développer, grâce à l'informatisation des sociétés, comme on dit, le numérique, la vidéo, etc., pour lesquels une masse de jeunes adhèrent. Hein. Vous avez des millions de jeunes qui participent à des compétitions, surtout dans les pays asiatiques. Vous avez des mises en réseau de centaines de milliers de jeunes.
Il y a même des grandes salles spécialisées.
Voilà, des grandes salles spécialisées. Bon, vous êtes devant votre écran. Ça ne demande pas beaucoup, ça demande des serveurs, évidemment, mais ça ne demande pas beaucoup de matériel, vous voyez, physique.
Oui, il n'y a pas de modifier les gares, de toute façon.
Exactement. Et là, le CIO, il est en train de regarder ça de très, ouais. très près. De très, très près, avec voilà, des gens qui sont en train d'étudier ce qui est en train de se passer, justement, avec ces nouvelles fédérations de vidéos, ces trucs qui commencent à apparaître, qui se professionnalisent. Parce que c'est la même histoire. Hein. Dans la vidéo, vous commencez à avoir des fédérations, des professionnels, des compétitions.
Ouais, des jeunes qui s'entraînent 5-6 heures par jour. Quoi.
Des gens qui s'entraînent de la même façon. Ouais, alors, ils s'entraînent assis. Ouais. Hein, ils lancent plus, ils ne sautent plus, ils ne courent plus.
Sauf qu'ils n'avaient été obligés quand même d'aller faire un peu de développement sportif. Parce
mais ils sont, vissés
à l'écran
avec là aussi, comment dire, un mode, disons, de position corporelle, hein, qui va aussi demander des efforts particuliers, différents, mais particuliers. Hein. Je pense que là, le dopage...
Du point de vue cognitif, ça va jouer aussi. Hein.
Tout à fait. Du point de vue dopage, ça va être très intéressant, hein, parce que...
Voilà. Ah oui, ils jouent pendant 24 heures, quelquefois, les compétitions, donc il faut bien
ils sont
jouer,
sous,
on peut
ils
prendre...
sont sous coke, hein, ouais. Ils sont tous sous coke. Hein.
Peut-être qu'on pourrait terminer, parce que tu fais une critique de la critique du sport à la fin,
ouais. Hein,
en disant, les gens qui font de la critique du sport, ils critiquent que le sport, quand en fait c'est le sport qu'il faudrait abolir d'une certaine manière, le sport compétition, le sport olympique, quoi, hein, pas l'activité physique pour autant.
Hein. Non,
ils perdent leur temps à critiquer le sport quand en fait...
Tu as fait une différence, activité physique
oui,
et sport,
bien sûr.
Qui est quand même quelque chose de totalement différent.
Le mot sport est tellement puissant, il est polysémique, hein, c'est-à-dire que voilà, tout est sport, hein. Vous prenez le métro, vous courez après votre maîtresse qui vient vous quitter, bon, etc., on fait du sport. Hein, bon. Le sport pour moi c'est la compétition. Hein.
Ouais, c'est le vocabulaire qui est venu dans le quotidien aussi.
Complètement.
Quand tu dis le sport, tout est sport.
Ouais.
Dans des entreprises, c'est le sport. Éducation nationale, c'est sport.
Ouais,
tout ce vocabulaire a phagocyté la discussion.
Complètement. Et là, bon, on est face à quelque chose, bon, à la langue, hein, vis-à-vis de laquelle c'est très difficile, disons, de poser des éléments. Alors moi, à chaque fois, je dis, mais de quel sport parle-t-on exactement, hein? Bon, si c'est pour jouer avec des copains, comme ça, vous voyez, de manière aléatoire, dans un endroit...
Comme sur la plage, avec un ballon.
Et à se faire ses propres règles collectivement quand on est là, ou des choses dans le genre-là.
bon, voilà. Mais non, le vrai sport, pour moi, c'est ce qui est organisé verticalement. C'est-à-dire que c'est les règles qui sont imposées du haut, par le CIO d'ailleurs, hein. Toutes les règles qui précisent que doit être un terrain de foot, une piscine, ce que doit le poids que doit lancer un lanceur de poids, 7,257 kg et pas un gramme de plus, le poids du javelot, etc. Tout est littéralement précisé, paramétré, normalisé, voilà. Et avec une compétition généralisée, c'est-à-dire que la compétition est le moteur à la fois. L'objectif est le moteur du processus. Hein. Il n'y a pas de sport sans compétition. Hein. Il n'y a pas de sport sans compétition. Et donc, tout est compétition. Et il y a des compétitions de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire qu'avant, c'était des Jeux Olympiques tous les 4 ans. Après, il y a eu les Jeux Olympiques d'été. Après, il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver qui sont venus assez vite. Après, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. Après, c'est les Jeux Olympiques asiatiques, les Jeux Olympiques américains, etc. etc., etc. Les games aussi, les gay games, les Jeux Olympiques homosexuels, etc. etc. Compétition permanente, jour et nuit. Vous avez aujourd'hui des chaînes de télévision qui sont des chaînes où le sport est permanent. Hein, c'est-à-dire de 24 heures sur 24,
vous avez des... Il suffit de se balader dans Paris, voir le nombre de bistrots où on ne voit que du foot. En ce moment, quand il y aura les Jeux Olympiques...
Bistrots, c'est étonnant maintenant, puisque tu vas dans un bistrot, de toute façon, tu as le grand écran qui te balance, et au moment du sport, il balance du sport, ce qui fait que le lieu... de rencontre qui était le café, il est complètement détourné. Tu es allé prendre des cafés, discuter avec... Maintenant, tu as ça, et en période dite sportive, ça t'écrase complètement.
Ça fait. Oui. Donc, voilà, c'est ce qu'on a appelé la sportivisation de la société, hein, qui fait que la critique, pour revenir sur tout ce que tu disais, qui fait que la critique devient... La critique, disons, de la compétition est un enjeu, évidemment, absolument, pour moi, décisif, aujourd'hui, de la compréhension du monde et de ce que l'on souhaite, mais qui est de plus en plus difficile à produire. C'est ça qui moi, m'est particulièrement inquiétant, enfin, me semble inquiétant, c'est que plus l'événement est puissant, plus il est gros, plus il est intégré, hein, plus il est pris en compte comme un élément de la vie sociale, de la vie même quotidienne, et il est de moins en moins critiqué pour ce qu'il est.
Hein. Mais justement, actuellement, il y a peu de groupes qui font une critique des Jeux Olympiques. Il y a quelques petits groupes locaux qui font pas des critiques, qui font des observatoires maintenant.
C'est plutôt de l'observation, de la surveillance.
Voilà, c'est ça. C'est plutôt de l'observation. Mais il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi. Et en plus, c'est en général des tout petits groupes qui se sentent concernés spécifiquement par un des éléments, mais il n'y a pas de critique globale.
Moi, j'y ai participé un peu à ces groupes-là tout au début. Ça s'appelait non-Jeux Olympiques Paris 2024, mais je me suis vite aperçu que eux, les Jeux Olympiques, d'abord, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein, bon. Eux, ce qui les intéresse, c'est les conséquences. Le béton, les choux-fleurs. Bon, moi, je suis bien sûr qu'il faut voir ça, hein, ce qui s'est passé dans les jardins ouvriers, etc. Bon. Voilà, ça, c'est sûr, il y a une bétonisation du fait des Jeux Olympiques. Etc. Mais ce qu'il faut analyser, c'est les Jeux Olympiques. c'est la nature profonde de cette organisation-là. Alors là, ça s'arrêtait là. Là, tout d'un coup, non, là, c'était plus possible d'analyser.
Toucher au sport.
Oui. Ce que je proposerais bien, Marc, c'est que après 2024, s'ils ont lieu, tu viennes avec nous faire un peu le bilan de tout ça. Alors, pas forcément dès juillet, mais dès octobre, novembre, quand ça va être un peu décanté, de manière à ce qu'on puisse.
On peut lui dire que l'antenne est ouverte.
Oui.
Pour lui.
Oui.
Vraiment.
Mais il faut qu'on soit là. Entre autres. Donc faire un peu le bilan de ces Jeux de 24, ça serait pas mal du tout, quoi.
Tout à fait.
Ben, on avait commencé une série, puisqu'on s'était vu régulièrement, justement, pour voir l'évolution. Donc on continue.
Voilà. Donc merci à toi d'être venu, Marc.
Merci de m'avoir invité.
On va laisser la place aux syndicalistes.
Qui ont voté les Jeux Olympiques.
Je te rends ça, quoi. Ouais.
Merci de nous rappeler. Ciao.
Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
Soy un hijo de... Mmh.